RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi la mise au point de la semaine. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie. L'arbitre suivante, magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous allons présenter des musiques indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi la mise au point de la semaine.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, on va suivre le journal et on commence avec les titres. L'Observatoire des relations internationales encourage la centralité de l'ASEAN. L'Indonésie doit prendre des mesures équilibrées pour faire face à l'incertitude de la relation internationale. Le ministère de la Défense et de l'Industrie de la Défense des Affaires intérieures augmente les synergies pour construire un logistique national ou les équipements de défense. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. L'Observateur des relations internationales de l'Université d'Indonésie, M. Baginda Pakpahan, vendredi à Jakarta, encourage les pays de l'ASEAN à maintenir leur position centrale face aux défis dans la région. Après avoir célébré le 50e anniversaire en 2017, l'ASEAN face encore les défis, soit dans la crise de péninsule coréenne, soit la question de la mer de Chine du Sud, y compris le terrorisme mondial en Asie du Sud-Est. En plus de maintenir la centralité de l'ASEAN, il encourage également les pays de l'ASEAN à développer des coopérations régionales dans l'Asie-Pacifique et Indo-Pacifique. Selon lui, cela encouragera les efforts pour maintenir la paix et la stabilité à la fois dans la région et au niveau mondial.
ASEAN harus berupaya menjaga persatuan
L'ASEAN devait s'efforcer de maintenir l'unité ainsi que la centralité de l'ASEAN pour y répondre. C'est le premier, autrement dit, si l'ASEAN s'unit et possède la centralité dans la formation de l'architecture régionale, cela aidera l'ASEAN et d'autres pays à maintenir la paix, la stabilité, la prospérité dans la région Asie du Sud-Est et Asie de l'Est. Bien sûr, cela a un effet sur le monde. Le deuxième espoir, la coopération de l'ASEAN peut aussi ouvrir la coopération au cercle Indo-Pacifique qui existe, comme par exemple dans l'océan Indien, parce qu'il y a de IORA là-bas, et aussi en Asie-Pacifique, car il y a l'APEC. Cela peut aider à maintenir la paix et la stabilité, ainsi que la sécurité régionale et l'espoir aussi au niveau mondial. Pour renforcer le rôle des pays de l'ASEAN au niveau régional et mondial, Baginda Pakpahan a déclaré que les pays membres de l'ASEAN devraient être en mesure d'améliorer la coordination dans le choix des questions stratégiques, y compris pour relever des défis existants. D'après lui, cet effort peut être fait pour construire un leadership commun au sein de l'ASEAN, y compris l'élimination de l'émergence de la rivalité des grands pays qui veulent gagner l'influence dans l'ASEAN. L'Observateur des relations internationales de l'Université d'Indonésie, M. Baginda Pakpahan, a déclaré récemment que l'Indonésie pourra équilibrer les mesures de politique étrangère au milieu de l'incertitude des relations internationales. L'incertitude dans les relations internationales est soupçonnée de se produire dans certains pays de la partie occidentale du monde. Ceci est indiqué par le conflit dans l'État, soit dans une région. Avant d'anticiper ce phénomène, M. Baginda a déclaré que l'Indonésie, en s'appuyant sur une politique étrangère libre active, pourrait jouer un rôle sur la scène régionale et mondiale afin de sauvegarder l'intérêt national.
Harus seimbang dalam melihat dan juga
strategis. Il doit être équilibré dans la voie et aussi stratégique dans le choix de la politique. Et je vois une politique étrangère libre active peut encore être utilisée en évaluant, comme par exemple, lorsque le multilatéralisme dans nos défis peut essayer de bilatéralisme. Nous pouvons essayer de faire un plurilatéralisme limité, ce qui peut soutenir les intérêts économiques et politiques des intérêts nationaux de l'Indonésie. Et aussi peut également maintenir la stabilité de la paix, de la sécurité au niveau régional et mondial, parce que c'est inclus dans notre constitution. Auparavant, dans la déclaration de presse annuelle, la ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré que la situation mondiale 2018 serait encore remplie de divers défis et l'incertitude. Selon lui, l'instabilité politique et la sécurité au niveau mondial restent le plus grand facteur de risque en 2018. Pour faire face aux défis, la ministre a déclaré que l'Indonésie donnerait la priorité au partenariat pour respecter le droit international en continuant à développer le multilatéralisme. En outre, l'Indonésie établira également des partenariats pour renforcer la coopération régionale et mondiale. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. L'Indonésie doit être capable d'augmenter la production de l'équipement principal du système des armes ou alutsista à travers l'industrie de défense nationale. L'indépendance de l'industrie de la défense est très importante pour faire progresser l'industrie de la défense nationale. Cela a été dit par le ministre de la Défense, M. Riamizat Yakudu, dans une conférence de presse après la réunion du ministère de la Défense 2018 au ministère de la Défense récemment à Jakarta. Selon le ministre Riamizat Yakudu, la synergie avec l'industrie de défense nationale devient la principale valeur pour le TNI, pour l'utilisateur, pour qu'il ait un sentiment de fierté dans l'utilisation des armements domestiques. Le ministère de la Défense avec l'industrie de la Défense vont stimuler l'industrie de la Défense. Il y a PT PAL, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia pour faire alutsista que TNI peut bien utiliser en toute sécurité et confortablement. Donc, si nous invitons des gens à acheter, ils savent déjà, c'est mieux. L'industrie de la défense du ministère de la Défense est en mesure d'augmenter l'économie de cette nation. Selon le ministre Riamizat Yakudu, l'un des soutiens de la croissance économique des grands pays dans le monde est l'industrie de la défense. Par conséquent, l'Indonésie doit être en mesure d'améliorer la capacité de l'industrie de défense nationale de sorte que la croissance économique de l'Indonésie peut être plus développée. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Vous écoutez toujours la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique La mise au point de la semaine, intitulée La coalition des partis politiques à Pilkada ou élections locales 2018 en Indonésie plus liquide. La Commission électorale générale ou la KPU a fermé l'inscription le mercredi 10 janvier pour les candidats qui participeront à l'élection du chef régional ou Pilkada simultanément 2018. 171 régions, y compris 17 provinces, éliront leurs dirigeants régionaux en juin. Jusqu'à mercredi soir, il y a eu 529 candidats qui se sont inscrits pour concourir à la fois pour l'élection des gouverneurs, des régions et des maires. Dans cette pilkada, les observateurs ont considéré que les partis politiques étaient pragmatiques. Le pragmatisme des partis politiques est vu à partir d'un modèle de coalition étant relativement liquide, qui signifie que les partis sont libres de former des coalitions avec n'importe quel parti. À Java de l'Est, Magelang, Sumatra du Nord et Sumulawesi du Sud-Est, comme par exemple, des candidats sont promus par des partis rivaux dans l'élection du président Joko Widodo et Prabowo Subianto en 2014. Comme par exemple, le parti PDIP et le parti Gerindra forment la coalition en portant des candidats pour le maire et vice-maire à Malang. Le directeur exécutif de Indobarometre, M. Mohamed Kodari, a déclaré que cette pilkada simultanée n'a pas de modèle standard. Auparavant, le PDIP était difficile à fusionner avec trois partis tels que Gerindra, PKS et Démocrate. Mais dans cette élection, PDIP pourrait former une coalition avec ces trois partis. La directrice exécutive de l'Association des élections et de la démocratie, au Perludem, Mme Titi Anggraini, a déclaré que cette coalition liquide pourrait réduire la friction. Selon elle, la friction ne sera pas massive, contrairement à la pilkada de Jakarta qui est portée au niveau national. En plus de la liquidité de la coalition, le pragmatisme des partis politiques est évident à partir du petit nombre de candidats qui ont participé par rapport aux élections précédentes. La diminution du nombre de couples rend l'addition de paires de candidats unique. À partir des données de la KPU, il y a 19 élections régionales participées par des paires de candidats uniques et ce nombre a augmenté par rapport à 2017. En 2017, il n'y a que 9 paires de candidats uniques. M. Pramono Ubay Tantowi, le commissaire de la Commission générale des élections, ou KPU, espère que les partis amèneront de nouveaux partenaires pour concourir dans les régions où il y a des candidats uniques. Le commissaire de la commission de KPU, M. Ilham Saputra, a déclaré qu'il y aura une extension de l'enregistrement dans 19 régions qui possèdent seulement une seule paire de candidats à Pilkada 2018. L'extension de l'enregistrement a duré 3 jours. La mise en œuvre de Pilkada ou l'élection locale est seulement un tour. Il n'y a pas de répétition du vote liée à l'acquisition du vote. Arif Budiman, le président de KPU, a déclaré que seulement la province de Jakarta qui avait des règles différentes. Dans la règle de l'élection du gouverneur de Jakarta, le deuxième tour peut se produire si le vote du candidat pour le chef de la région ne dépasse pas 50%. Ceci est indiqué dans le règlement de KPU numéro 6 l'année 2016. Chers amis, voilà la mise au point de la semaine pour aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, vive la dignité.
Bonsoir, chers amis. Vous écoutez toujours La voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Aujourd'hui dans l'histoire. Le 14 janvier 1907, le tremblement de terre à Kingston, Jamaïque. Le tremblement de terre a frappé la capitale de l'île de la Jamaïque, Kingston, 6,5 sur l'échelle de Richter le 14 janvier 1907, il est devenu l'un des tremblements de terre les plus meurtriers dans le monde. Par conséquent, tous les bâtiments ont été endommagés, a provoqué un incendie qui a duré 3 heures avant que l'on tente de l'éteindre. Ce tremblement de terre a causé 1000 morts et environ 10 000 personnes sans abri. Juste après ça, le tsunami a frappé sur la côte nord de la Jamaïque avec une hauteur de vague maximale d'environ 2 mètres. Le 14 janvier 1953, Joseph Broz Tito a été assermenté en tant que premier président de la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Joseph Broz, ou appelé Tito, était un révolutionnaire communiste ainsi qu'un homme d'État de Yougoslavie qui est occupé divers postes à partir de 1943 jusqu'à sa mort. Il a été secrétaire général de la Ligue communiste de Yougoslavie de 1939 jusqu'à 1980 et a dirigé la guérilla des partisans yougoslaves pendant la Seconde Guerre mondiale de 1941 jusqu'à 1945. Il a ensuite été premier ministre de 1944 jusqu'à 1963. Puis, il a été président de la République socialiste fédérative de Yougoslavie de 1953 jusqu'à 1980. Bien que la période de son leadership ait été critiquée comme autoritaire, certains historiens le considèrent comme un sage dictateur. Tito est une figure publique bien connue en Yougoslavie et dans le monde. Il est également considéré comme une figure unificatrice qui a réussi à maintenir l'intégrité de la Fédération de Yougoslavie à travers sa politique intérieure. Il a commencé à attirer l'attention du monde en devenant l'activateur du mouvement des non-alignés avec Sukarno de l'Indonésie, Jawaharlal Nehru de l'Inde et Gamal Abdel Nasser de l'Égypte. Le 14 janvier 2016, terreur de bombe à Jakarta. Il y a eu au moins 6 explosions ainsi que des tournages dans la zone autour de Plaza Sarina, la rue Muhammad Husni Tamrin, Jakarta Central, l'Indonésie, le 14 janvier 2016. L'explosion s'est produite à deux endroits, au parking de la tour Cakrawala et un poste de police devant le bâtiment. Au moins 8 personnes, 4 délinquants et 4 civils ont été tués et 24 blessés. 7 personnes ont été impliquées en tant que cadres de l'attaque. L'organisation de l'État islamique a revendiqué la responsabilité de la bombe. Chers amis, voilà l'édition d'aujourd'hui dans l'histoire de la voix de l'Indonésie à Jakarta.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Indonésiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Indonésiaku ou mon Indonésie. Le thème pour aujourd'hui est les sports électroniques asiatiques est prêt à être tenu. Pour la première fois, les sports électroniques seront officiellement présentés au public, notamment en Asie avec les Jeux Asiatiques 2018. Par conséquent, la Fédération Asiatique des Sports Électroniques, ou e-sport, s'est préparée pour les Jeux Asiatiques 2018 à Jakarta et à Palembang. Le chef de la Fédération Asiatique des Sports Électroniques, ou ISF, M. Kenneth Fogg, sur le site officiel du Conseil Olympique d'Asie, ou OCA, comme cité par Antara à Jakarta mardi, a déclaré que le match exhibition e-sport aux Jeux Asiatiques reflète le développement impressionnant en Asie dans un court terme. La promotion de e-sport a déjà été réalisée dans le match exhibition au 5e jeu asiatique d'intérieur et des arts martiaux à Ashgabat au Turkménistan en septembre 2017. Selon Kenneth Fogg, bien que les gagnants du match exhibition e-sport au 18e jeu asiatique recevront des médailles, mais la médaille dans e-sport ne comptera pas comme une médaille des jeux asiatiques. Le calcul officiel de la médaille e-sport dans les jeux asiatiques débutera au 19e jeu asiatique à Hangzhou, en Chine, 2022. Bien qu'il n'ait pas officiellement annoncé les détails de matchs e-sport dans les jeux asiatiques, le sport utilisant le support de l'ordinateur tiendra 8 matchs au 18e jeu asiatique en Indonésie. Kenneth Fogg a expliqué que le championnat e-sport aux Jeux asiatiques 2018 pourrait être le résultat maximal de la fédération pour l'approbation de OCA pour impliquer e-sport dans le plus grand championnat multisport en Asie. E-sport est un sport où la structure et le niveau de jeu sont les mêmes que dans le sport en général. La différence est que les athlètes de sport électronique ne sont pas en compétition physiquement, mais sont plus concernés par la stratégie. Ils rivalisent en ligne à travers des ordinateurs. Chaque équipe peut rivaliser sans face à face. Dans la mise en œuvre du 6e Tafisa Sport Mondial pour tous 2016, qui a eu lieu en octobre 2016, les activités sportives du monde, des loisirs et des jeux sportifs à Jakarta, auxquels il y avait plus de participants de 5 continents, e-sport est devenu le plus important, en plus de l'organisation d'activités de jeux traditionnels du monde entier. Chers amis, c'était Mon Irnésie, de la Voix de l'Irnésie, diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant, nous allons vous présenter la rubrique Magazine culturel. Et aujourd'hui, nous vous invitons à visiter Aceh, qui est la capitale de la province d'Aceh, pour connaître les traditions du peuple. Et alors, restez avec nous à RRI, le service mondial de la voix de l'Indonésie à Jakarta. L'Indonésie est un grand pays et riche en coutumes. De bord de Sabang au bord de Merauke, l'Indonésie est célébrée pour ses coutumes et cultures diverses. Chaque région d'Indonésie a ses propres coutumes et culturels qui sont différents des autres régions. L'un de la culture d'Aceh est la cérémonie de Trunbak Tanu. La cérémonie de Trunbak Tanu est également appelée une cérémonie de Turun Tanah, une tradition du peuple Aceh pour symboliser la pureté de la mère qui vient d'accoucher. Les valeurs qui existent dans cette cérémonie sont les valeurs associées au monde et à si après qui continuent à être préservées jusqu'à présent. Dans cette procession cérémoniale, le nouveau bébé est sorti de la maison tandis que la nouvelle mère, parce qu'elle est encore considérée dans des circonstances impies, elle n'est pas autorisée à sortir de la maison. Au moment de la cérémonie, on apprend au bébé à se familiariser avec le monde extérieur où nous devons travailler dur et ne sommes pas paresseux, car s'il est paresseux, il sera mauvais pour la vie plus tard. La série de ces cérémonies est un processus d'apprentissage qui peut être utilisé dans la vie quotidienne. Dans la société d'Aceh, la cérémonie de Trun Baktano est aussi appelée Putron Ana Atano. Il y a une différence sur le temps de la mise en œuvre. Certaines accomplissent la cérémonie le 7e jour après la naissance, mais certaines ont lieu le 44e jour après la naissance, et certaines ont même lieu après que le bébé a plus d'un an. D'habitude, cette cérémonie est exécutée simultanément avec une cérémonie de baptême, une cérémonie de chokoé ou un rasoir de cheveux et la tradition akiko. Dans cette cérémonie, toutes les familles sont invitées et les plus importants sont les anciens. D'habitude, les anciens traditionnels qui sont aussi des chefs religieux qui dirigera cette cérémonie. La cérémonie est parfois aussi animée par les zélos du prophète accompagnés de tambourins, parfois même accompagné de spectacles de danse et de pencak silat. Bon, chers amis, voilà la rubrique magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous et à demain.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers amis de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta, merci d'être fidèles à notre antenne et on se retrouve dans la rubrique L'Indonésie en couleur. Dans cette édition, on va parler de l'Université d'Indonésie à inaugurer le laboratoire multidisciplinaire. Pour répondre aux défis dans le monde des sciences et pour réaliser une université de recherche de classe mondiale, l'Université d'Indonésie inaugure le laboratoire de recherche multidisciplinaire de la Faculté des mathématiques et des sciences naturelles. L'existence de ce laboratoire doit également fournir des solutions pour le développement durable. L'inauguration du laboratoire a eu lieu le jeudi 11 janvier par le professeur Dr. Ingénieur Muhammad Anis, en tant que recteur de l'Université d'Indonésie, et Ilya Massamanik en tant que directeur de Pertamina. Le développement du laboratoire de recherche multidisciplinaire est le résultat de la mise en œuvre de la coopération entre l'Université d'Indonésie et PT Pertamina, qui existe depuis plus de 10 ans. Le bâtiment de le laboratoire est conçu avec le concept de bâtiment écologique, dont le concept est respectueux de l'environnement en appliquant l'efficacité énergétique pour l'éclairage et la circulation de l'air. La recherche multidisciplinaire doit encourager la croissance du travail d'innovation pour le développement de la nation et les activités de recherche, soit la recherche fondamentale et soit celle qui est appliquée dans l'Université d'Indonésie en général. Les recherches seront développées dans ce laboratoire sont entre autres la génomique environnementale et biotechnologie, la prospection bio-zio, les matériaux intelligents et fonctionnels, hydrométéorologie, le changement climatique et les aléas naturels, l'énergie renouvelable et la science computationnelle. En outre, ce laboratoire sera le précurseur du développement des parcs scientifiques à l'Université d'Indonésie. Lors de l'inauguration du laboratoire multidisciplinaire, il y a aussi la signature du mémorandum d'accord entre la Faculté d'ingénierie de UI et l'Agence nationale de l'aéronautique de l'espace, ou l'APAN. Cependant, la Faculté de la mathématique et des sciences naturelles de l'Université d'Indonésie a signé un accord de coopération qui est une continuation du protocole d'accord précédemment signé avec l'APAN. La signature du mémorandum d'accord et de la coopération est effectuée par le recteur de UI et le chef de l'APAN, professeur Dr. Thomas Jamaluddin, a été mené dans le domaine académique et de la recherche. Mohamed Anis a déclaré qu'il aurait l'installation de partage où les étudiants de l'Université d'Indonésie peuvent utiliser l'installation de laboratoire de l'APAN et vice-versa. En outre, il est prévu que les employés de l'APAN puissent également poursuivre le niveau académique des programmes de master et de doctorat à l'Université d'Indonésie avec une base de recherche qui se concentre directement sur la recherche spécifique. Les experts de l'APAN peuvent également être un mentor ou un superviseur pour les étudiants de UI qui sont en train de faire une mémoire. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta et merci d'être fidèle à notre antenne. Chers amis, avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Et pour ce soir, nous allons présenter un chanteur qui s'appelle Sandy Canister. Écoutez maintenant la première chanson intitulée Samedi, dimanche. Bonne écoute.
Bila dapat ku berikan apa yang kau mau, apa yang ku bisa dalam sekejap saja ku berikan. Tapi bukan hal yang baru kau inginkan aku. Sepanjang waktu ku harus selalu denganmu. Maafkanlah, ku tak bisa. Ku tahu kau mengerti. Hatiku selalu ada kamu. Dari 7 hari telah ku berikan engkau. Dari hari apapun. Ada saat aku pergi mengejar mimpi. Jalani hari-hari dan buat lebih berarti. Tanpa kamu, tanpa kamu. Tapi bukan hal yang baru. Sepanjang waktu ku harus.
baru selalu denganmu. Maafkanlah ku tak bisa. Ku tahu kau mengerti hatiku selalu ada kamu. Dari 7 hari telah ku berikan engkau. Dari hari apapun.
Voilà, chers amis, la première chanson de Sandy Canister, un chanteur et compositeur qui est né le 9 janvier 1980. Il fréquentait des concours de musique depuis son enfance. Parmi eux, il a gagné la première place dans un concours tenu par TVRI en 1993 et il a aussi représenté l'Indonésie dans le concours de chanteur junior d'Asie en 1997. Et puis, comme un adulte, Sandy crée plusieurs chansons pour ses amis. Sa carrière est de plus en plus grande lorsque son premier single intitulé « La jalousie » a été présenté dans le film indonésien « Dialova ». Après le succès de son single, il a sorti son premier album intitulé « Be My Lady » en 2006 avec le single principal « Samedi Dimanche ». Bon, chers amis, écoutez maintenant d'autres chansons intitulé Tomber amoureux.
Padamu. Mm-hmm.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta dans la rubrique Magazine Musical. Et cette fois, ces chansons sont chantées par Sandy. Après qu'elle avait sorti son single dont le titre est Appelle-moi en 2008, Sandy a sorti son deuxième album en 2012. Cet album intitulé Colorbox. Et cette année, elle retourne avec son nouvel single intitulé Le Début, en collaboration avec une chanteuse qui s'appelle Nadia Fatira. Bon, chers amis, avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter deux chansons intitulées Le Début et Salut les femmes. Tous les deux sont chantés par Sandy Canister. Merci à tous et à bientôt.
Jalani setiap hari bersama. Lalu ku jadi suka. Awalnya biasa, tapi lama-lama cuma ada biasa, tapi lama-lama ku selalu menunggu pesan dari kamu. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama.
jatuh cinta.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Because
tapi cuma bisa berbisik.
La voix de l'Indonésie, vive la dignité.
Aku tak peduli.
c'était des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia. Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.